Rappelons une histoire sur un échange de télégrammes qui eut lieu entre les états-majors allemands et autrichiens durant la Première Guerre mondiale. Le message des Allemands fut « Chez nous, sur le front, la situation est grave, mais pas catastrophique. » À quoi les Autrichiens répondirent « De notre côté, la situation est catastrophique, mais pas grave. » Ne sommes-nous pas de plus en plus nombreux à considérer ainsi la situation globale ? Nous savons tous la catastrophe imminente, écologiquement et socialement parlant. Mais nous ne parvenons pas à prendre la chose au sérieux. Or, la catastrophe arrive bel et bien. Tout autour de nous, l'impossible se produit. En Chine, si on déteste franchement quelqu'un, la malédiction qu'on lui lance est « Puissiez-vous vivre jusqu'aux temps intéressants ?» Au fil de notre histoire, les temps intéressants sont en effet des périodes d'inquiétude, de guerre et de lutte de pouvoir, dont des millions d'innocents subissent les conséquences. Aujourd'hui, il est clair que nous approchons d'une nouvelle période intéressante.
Rappelle-toi que tu dois mourir, bah ouais. Je veux bien choisir les toxines qui feront la une à l'autopsie. On peut crever d'abrutissement, on peut caler dans un canapé de lotissement. Y'a le terrain et ses glissements. J'ai entendu crisser les treuils, vision d'un crâne en talisman. J'ai les entrailles qui braillent, ce perpétuel avertissement. Avant de crever, un seul devoir c'est d'être en vie.
On danse au bord du gouffre qui t'emballe le fer au bout d'une corde sur fond de désastre. Un monde aux airs de fausses aisances, des piches d'errance dans les pattes. Viens pas nous parler d'espérance.
Il faut bien commencer. Commencer quoi ? La seule chose du monde qui vaille la peine de commencer. La fin du monde, parbleu.
Nous ne savons pas, en vérité, ce que sont les mondes, ni de quoi dépend leur existence. Quelque part dans l'univers est peut-être inscrite la loi mystérieuse qui préside à leur genèse, à leur croissance et à leur fin. Mais nous savons ceci, pour qu'un monde nouveau surgisse, il faut d'abord que meure un monde ancien. Et nous savons aussi que l'intervalle qui les sépare peut être infiniment court ou au contraire si long que les hommes doivent apprendre pendant des dizaines d'années à vivre dans la désolation pour découvrir immanquablement qu'ils en sont incapables et qu'au bout du compte, ils n'ont pas vécu. Peut-être pouvons-nous même reconnaître les signes presque imperceptibles qui annoncent qu'un monde vient de disparaître. Non par le lancement des sifflements des obus par-dessus les plaines éventrées du nord, mais le déclenchement d'un obturateur qui trouble à peine la lumière vibrante de l'été, la main fine et abîmée d'une jeune femme qui referme, tout doucement, au milieu de la nuit, une porte sur ce qui n'aurait pas dû être sa vie, ou la voile carrée d'un navire croisant sur les eaux bleues de la Méditerranée, au large d'Hippone, portant depuis Rome la nouvelle inconcevable que des hommes existent encore, mais que leur monde n'est plus. Les mondes passent, en vérité, l'un après l'autre, des ténèbres aux ténèbres, et leur succession ne signifie peut-être rien.
Tout le processus dure 20 minutes. Et un corps, un monde, est réduit en cendres. Tu restes pétrifié à regarder. Voici qu'on en pose encore deux sur la civière. Deux êtres, deux mondes qui tenaient leur place dans l'humanité, qui ont vécu et existé, agi et créé, qui ont travaillé pour le monde et pour eux-mêmes, ont posé une brique sur le grand édifice, tissé un fil pour le monde et pour l'avenir, et dans 20 minutes, il ne restera de plus aucun vestige. Et voici deux autres maintenant posés là. On leur a fait un brin de toilette. Deux jeunes et belles femmes, elles ont dû être splendides. Elles avaient leur place sur Terre, occupées deux mondes entiers, tant de bonheur et de plaisir elles ont prodigué au monde. Chaque sourire était un réconfort, chaque regard un ravissement, chaque parole un enchantement comme un chant céleste. Et là où se posaient leurs pas, elles apportaient joie et félicité. Tant de cœurs les aimaient, et à présent les voici étendus à deux sur cette planche de fer. Et bientôt va s'ouvrir la gueule de l'enfer, et dans quelques minutes il ne restera d'elle plus aucun vestige. Voici qu'on en est en trois maintenant. Un enfant pressé sur le sein de sa mère. Tant de bonheur, tant de joie ont éprouvé sa mère, son père à la naissance de leur enfant. Ils ont bâti un foyer, tissé un futur, le monde était pour eux une idylle, et dans 20 minutes, il ne restera d'eux plus aucun vestige. L'ascenseur monte et descend, transporte des victimes sans nombre. Comme dans un énorme abattoir, sont empilés là des monceaux de cadavres qui attendent leur tour, attendent qu'on les enlève. 30 bouches infernales flamboient à présent dans les deux grands bâtiments et engloutissent les victimes innombrables. Il ne faudra pas longtemps pour que ces 5000 êtres, ces 5000 mondes, soit dévoré par les flammes. Les fours flambent et grondent comme des vagues de tempête. Ils brûlent d'un feu allumé depuis longtemps déjà par les mains de ces barbares et assassins du monde, qui espèrent, par sa lumière, repousser les ténèbres de leur monde d'horreur. Le feu brûle haut et clair, en toute tranquillité. Nul ne l'entrave, nul ne tente de l'éteindre. Il reçoit sans cesse des nouvelles victimes, innombrables, comme s'il était venu au monde à cette seule fin. L'essentiel, dit au lieutenant Rosenfeld, c'est l'expérience du mal. Certes, on peut la faire partout, cette expérience. Nul besoin des camps de concentration pour connaître le mal. Mais ici, elle aura été cruciale et massive. Elle aura tout envahi, tout dévoré. C'est l'expérience du mal radical. Le mal n'est pas l'inhumain, bien sûr. Ou alors c'est l'inhumain chez l'homme. L'inhumanité de l'homme en tant que possibilité vitale, projet personnel, en tant que liberté. Il est donc dérisoire de s'opposer au mal, d'en prendre ses distances par une simple référence à l'humain, à l'espèce humaine. Le mal est l'un des projets possibles de la liberté où s'enracine à la fois l'humanité et l'inhumanité de l'être humain.
suis en situation de barricade insurrectionnelle permanente depuis plus de 20 ans. Obligé d'être ce fort si je ne veux pas être ce mort. Un juif, c'est moi. Celui à qui on a demandé plus souvent qu'à tout autre ses papiers.
Planète Atome, an 0. Année 1945 sur la planète Terre. Alamogordo, désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet. Test nucléaire secret, nom de code, Trinity. Explosion de gadget, première bombe atomique au plutonium. La version officielle parle d'accident dans un dépôt de munitions. Message reçu par Truman, le bébé est bien né. Aparté de Bainbridge à Oppenheimer. Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Enola Gay, altitude 31 596 pieds, 8h15, go ahead, déverrouillage de la soute, largage de Little Boy, heure H-43 secondes. Le point d'impact est réglé à 600 mètres du sol, heure H. Le détonateur à pression d'air s'enclenche, met en branle la tête de détonation, explosion décharge. À l'intérieur du fuselage, deux masses subcritiques d'uranium entrent en collision. La collision provoque une réaction en chaîne. Explosion en vol. Altitude 1903 pieds. Neutrons, azote, oxygène, l'énergie comprimée vaporise la tête nucléaire, un éclair de lumière blanche aveugle tout homme, machine, pellicule sensible à des kilomètres à la ronde, rien ni personne ne peut voir en face ce flash, bang! Aucun être humain ne peut se le représenter. Seules les équations imaginent un mur d'air compressé qui se déplace. L'air se transforme en boule de feu. La boule de feu progresse à la vitesse de la lumière, avale tout sur son passage. La température atteint 10 millions de degrés. L'heure H se compte en centièmes de seconde. H plus 0,015 secondes à partir du point d'impact. L'onde de choc primaire se propage au-dessus d'Hiroshima. H plus 0,050 secondes. La boule de feu incandescente radioactif touche le sol où elle se réfléchit, rebondit, gonfle, on dirait une ombrelle de méduse, H plus 0,1 plus 0,2 plus 0,3, etc. jusqu'à H plus 15 secondes. L'expansion, le rayonnement progresse, l'onde de choc se déplace, souffle des vents cycloniques puissance 3 de 400 à 600 km à l'heure, une colonne d'aspiration se forme, elle s'élargit, l'incandescence diminue dans l'atmosphère surchargée, la méduse étirée prend la forme d'un champignon. Un champignon atomique. La colonne d'aspiration poursuit son ascension atmosphérique. Tout là-haut, dans le ciel, ce qu'il reste de la boule de fission mélangée aux êtres vivants, aux débris, aux poussières, se transforme en puissance épidémique. Filaments. Spores, particules, nuages radioactifs, pluie noire. Joliot-Curie n'hésite pas, le lendemain de Little Boy, à envoyer un communiqué à l'AFP pour revendiquer la paternité française du brevet atomique plutôt que de condamner l'Amérique pour possession et usage atomique sur Hiroshima.
Pour ceux qui travaillaient sous les cieux antarctiques, le premier choc est venu lorsque nous comprîmes ce que les relevés dans les neiges du pôle sud traduisaient. Les poussières radioactives provenant des tests nucléaires réalisés dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord étaient arrivées jusque-là. Désormais, disait Seguer, inutile d'envisager vivre ou mourir dans son coin. Nous étions tous interconnectés par les armes. Par ailleurs, l'explosion imposait une autre image de la barbarie, le pendant propre de l'extermination nazie. Posant aux politiques, aux militaires, aux physiciens et à l'homme de la rue la même question éthique. Quelle société avions-nous construite qui autorisait un tel acte? Quelle société était capable, dans ses laboratoires, de produire des machines de mort aptes non à tuer des hommes, mais à les exterminer?
La vie n'est qu'une ombre qui passe. Un pauvre acteur qui s'agite et parade une heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit et de fureur, raconté par un idiot et qui n'a pas de sens.
Cruel. soirée à tuer le temps qui défile dans un paysage moche et industriel. Oui, nos destins sont triés, classés dans des logiciels. Mon cœur est un grand glacier, j'ai vraiment appris à me méfier même des gens les plus fidèles. Je suis doué pour le duel, mon abonnement au banc est annuel. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place gratuite. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place gratuite. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place. Place gratuite, cellule, place gratuite, HP, place gratuite, charter, place gratuite, fourcon, place gratuite, cellule, place gratuite, HP, place gratuite, 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 gratuite.
Que la misère existe, vous n'êtes pas riche. Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libres.